Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et avant l'épisode d'aujourd'hui, avec Delphine Allez, consacré à la question du religieux, de l'importance du facteur religieux dans les conflictualités contemporaines, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau le partenaire de ce podcast, Joseph Henrotin, rédacteur en chef du magazine DSI. Bonjour Joseph.
Bonjour.
Et c'est pour nous parler aujourd'hui du nouveau hors-série de DSI, le numéro 78, numéro de juin-juillet de 2021 donc, qui est consacré, comme vous le faites régulièrement, à l'aviation de combat. C'est un point, disons, c'est un tour d'horizon de l'aviation de combat, de ce qui se fait et de ce qui se fera demain. Alors, on sait, je pense que les auditeurs savent qu'il y a un certain nombre de choses qu'on attend quand vous arrivez dans le podcast, Joseph, et notamment c'est de se moquer un peu du F-35 et de ses retards. Et évidemment, ce numéro de DSI n'y déroge pas, puisqu'il y a un article de Yannick Smaldor qui fait le point, mais disons un point qui est très complet, parce que, voilà, dans un article, on a le résumé de tous les problèmes, tous les retards, et toutes les difficultés de développement du F-35, ce qui va poser la question, et on y reviendra évidemment juste ensuite, des alternatives aujourd'hui pour les exportations et pour les avions de chasse américains. Mais est-ce que vous pourriez peut-être nous rappeler, nous parler un peu de ce tour d'horizon fait par Yannick Smaldor, de cette éternelle et lancinante question de quand est-ce que le F-35 va réussir à fonctionner comme il devrait ?
Voilà, tout à fait. Alors effectivement, cette histoire de F-35 est beaucoup plus qu'un running gag, dans la mesure où finalement c'est un appareil qui va quand même structurer l'avenir de pas mal d'armées de l'air de par le monde. Et effectivement, comme c'est un programme extrêmement complexe, le nombre de problèmes potentiels, alors problèmes qui sont soit structurels, soit des problèmes qui apparaissent au fur et à mesure du développement. En fait, ce nombre de problèmes est quand même considérable. Et donc, effectivement, tous les deux ans, au fur et à mesure des hors-séries qui paraissent normalement pour le salon du Bourget, on en profite pour faire un point. Alors, pour le coup, le gros problème pour l'instant, c'est l'évolution vers ce qu'on appelle le bloc 4 ou le C2D2, qui est en fait le standard, si vous voulez, qui permettra la mise en œuvre de l'ensemble des capacités attendues pour l'appareil. Alors en sachant qu'en fait c'est un standard qui est lui-même évolutif, et c'est là où ça devient délicat du coup à estimer quel est le progrès, quels sont les progrès de l'appareil, parce qu'au fur et à mesure du temps qui passe, de nouvelles capacités sont ajoutées, et donc la comparaison, si vous voulez, par rapport aux objectifs fixés initialement devient extrêmement délicate, et évidemment ça peut aussi servir à camoufler un certain nombre d'erreurs, un certain nombre de problèmes, et un certain nombre également de surcoûts, vu que fondamentalement, si vos capacités s'accroissent en permanence, il est probable que le coût va lui aussi évoluer, et donc vous vous retrouvez dans une situation où tout devient complètement glissant. Alors, il y a des problèmes donc avec ce standard bloc 4, on ne sait pas en fait quelles sont exactement les capacités qui vont être intégrées, donc on nous dit sur les appareils, il va y avoir une cinquantaine, soixantaine de capacités qui vont arriver. Donc, on va faire des trucs. Alors, quand on pose la question ensuite, et on le voit bien dans la littérature et dans la presse de défense américaine, quand les journalistes de défense américains posent la question, on leur répond, c'est secret, donc on peut pas en parler. Donc, tout de suite, évidemment, l'évaluation des capacités d'appareil devient délicate. Il y reste évidemment des problèmes liés à la maintenance de ces appareils. Vous savez que c'est une maintenance qui se fait de manière centralisée aux États-Unis, donc par l'intermédiaire finalement de l'informatique et du cloud. Il y avait un premier système Alice qui était tellement problématique en fait qu'un secrétaire à l'Air Force a dit que jamais aucun maintenancier de l'US Air Force n'appellerait sa future fille Alice. Donc c'est dire le niveau de problèmes rencontrés. Donc il y a un nouveau système qui a été mis en place, Odin. Et Odin en fait, si vous voulez, reprend un certain nombre de composants logiciels de Alice, mais là aussi il y a un certain nombre de problèmes qui continuent à se poser. Au-delà de cela, il reste des problèmes plus structurels, l'alignement du canon par exemple, ce qui est évidemment problématique vu que finalement toutes les espérances à travers les décennies, on va dire, d'éliminer les canons sur les appareils de combat sont avérés déçus. Hein. Il faut conserver un canon pour toute une série de fonctions.
Alors, rappelons que c'est quand même pas au cœur de l'identité du F-35, puisque le F-35 est un appareil très furtif qui permet d'engager à distance et que donc normalement il passerait beaucoup plus par des missiles. Mais bon, il s'avère que quand même on peut pas tellement se passer d'armes à courte, voire très courte portée, et que donc quand le canon tire pas droit, il s'avère que c'est quand même plus compliqué de faire mouche, quoi.
Ah ben, tout à fait, parce que le F-35 doit aussi remplacer l'A-10, donc le Thunderbolt, donc appareil de combat anti-char, qui lui, effectivement, s'approche à très courte distance de ses cibles pour pouvoir les frapper. Évidemment, le canon du F-35 est très loin d'être équivalent à celui de l'A-10, mais en plus, évidemment, s'il tire à côté, c'est toute la question des fonctions anti-char dans l'US Air Force, pour le coup, qui se pose.
Et alors, Yannick Smaldor, d'ailleurs toujours lui, fait d'ailleurs un deuxième article qui est très intéressant parce qu'il fait un point de comparaison en remarquant que, en fait, l'un des atouts essentiels à l'export, disons, des avions américains, aujourd'hui, alors ça va pas durer éternellement, mais face aux défaillances de ce F-35, c'est le bon vieux F-16, donc le Falcon, qui est un appareil qui a quand même été développé dans les années 70, qui est un appareil qui fonctionne assez bien pour les armées de l'air, qui a été beaucoup exporté, mais qui est encore aujourd'hui vendu, alors sous un format un peu différent, je crois que c'est le format Viper, mais en gros, face aux incertitudes liées au F-35 qu'on vient de détailler, c'est quand même le Falcon qui continue à bien se vendre pour pallier l'incertitude, disons.
Oui, alors tout à fait. En fait, c'est un petit peu la stratégie gagnante, finalement, aussi bien des États-Unis que de Lockheed Martin, vu que le F-35 comme le F-16V sont proposés par Lockheed Martin. C'est que finalement, vous avez un produit, on va dire, très, très haut de gamme, avec un certain nombre d'inquiétudes derrière cela, et puis un produit, finalement, qui est... tout à fait validé, on va dire, par l'expérience, qui est un appareil produit à plus de 5000 exemplaires, bien connu par le monde, et qui en fait connaît son ultime modernisation par l'intégration, pour le coup, d'un certain nombre de choses qui ont été conçues, notamment pour le F-35 ou dans le cadre plus général du F-35. Et donc en fait, on a une modernisation avec un radar à antenne active. Donc qui permet, alors c'est pas le même radar que celui du F-35, hein, qui permet de faire des choses un peu similaires. Il y a une modernisation du cockpit, de l'électronique, etc., etc. En sachant également que cela se paye, entre guillemets, d'un alourdissement qui n'est pas complètement compensé. Et on en revient finalement aux fondamentaux de l'architecture aérienne, hein, qui n'est pas complètement compensée par l'accroissement de puissance des moteurs. Le F-16 avait été conçu comme un appareil extrêmement manœuvrant dès ses origines, un appareil en fait tellement simple que dans l'esprit de John Boyd, il ne devait pas être doté de radar pour pouvoir vraiment être produit en très grande masse. Et puis, in fine, au fur et à mesure des itérations de l'appareil, on s'est aperçu qu'il y avait un alourdissement, compensé en partie par l'accroissement de la puissance des moteurs. Ici, on arrive un peu au bout de la formule, quelque part. Hein. Mais, au demeurant, ce bout de la formule permet quand même de faire 376, si je ne m'abuse, ventes à l'export, ce qui est quand même pas si mal que cela, et qui permet, pour le coup, de continuer de positionner les États-Unis, on va dire, à la tête des États qui vendent le plus d'appareils de combat par le monde.
Ouais, tout à fait. Alors, tout ça nous amène évidemment disons, à ce qui se fait aujourd'hui et demain avec le F-35 et ensuite toutes les perspectives, y compris les perspectives futures qui sont encore en développement. Et là-dessus, il y a un dossier tout à fait remarquable dans ce hors-série, enfin, un long article que vous signez vous-même, Joseph, sur ce qu'on appelle les effecteurs déportés. Alors, c'est extrêmement important, les effecteurs déportés, parce qu'on sait peut-être que c'est une grande partie du futur avion de combat français, européen, du SCAF. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'on puisse faire interagir un avion piloté au milieu et un certain nombre d'effecteurs déportés, c'est-à-dire de drones, d'objets volants, disons, commandés dans une certaine mesure par l'avion central, l'avion piloté. Alors, vous faites un point sur à la fois les promesses de ce que c'est et en même temps, aussi, vous marquez des limites assez nettes à ce qui est réaliste d'attendre aujourd'hui, notamment dans la mise en œuvre, parce qu'on voit que ces effecteurs déportés, c'est peut-être l'avenir, mais ce n'est pas encore l'avenir proche, parce qu'il y a encore un certain nombre de questions et de points de progrès qu'il faut avant de pouvoir envisager de l'intégrer vraiment dans un système de combat.
Alors oui, tout à fait. C'est tout le paradoxe en fait de l'époque dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire qu'on voit bien vers ce vers quoi on va, et on voit bien en quoi ces effecteurs déportés finalement constituent une solution aussi aux problèmes stratégiques rencontrés, en tout cas aux problèmes technocapacitaires rencontrés ces 20 dernières années. Et en même temps, on se retrouve finalement au début d'une aventure aéronautique. Alors, l'avantage finalement de ces systèmes-là et ce en quoi ils permettent de répondre à une vieille question, c'est le rapport à la masse. En fait, un des gros problèmes que rencontrent pas mal de forces aériennes, et notamment celles qui achètent le F-35, c'est de se retrouver finalement avec des appareils qui coûtent de plus en plus cher, et donc des budgets qui, eux, ne sont pas extensibles à l'infini, et donc, in fine, une réduction du nombre d'appareils. Alors, évidemment, on peut se dire que ces appareils sont plus capables que ceux qu'ils vont remplacer, qu'ils peuvent faire plus de choses, certes, mais quand vous perdez un appareil sur 30, c'est évidemment plus dommageable du point de vue de votre stratégie des moyens que si vous en perdiez un sur 50 ou un sur 100 ou un sur 200. L'attrition se fait beaucoup plus vite et rapidement sentir, et d'autant plus que la durée de vie, si vous voulez, de ces appareil est appelé à faire 30 ou 40 ans. Voilà. Et donc, si vous voulez, l'effecteur déporté, c'est ce qui pourrait éventuellement permettre de compenser cela, de recréer de la masse au meilleur coût. Alors, voilà, ça c'est pour la vision stratégique, on va dire, derrière cette affaire-là. Maintenant, le problème, il devient rapidement technique, c'est-à-dire que faire? Alors, pratiquement, ce qui est très intéressant, c'est qu'au début des années 2000, on considérait que les drones étaient l'avenir de l'aviation. Et qu'en gros, le Rafale ne connaîtrait plus, si vous voulez, de successeur qui soit piloté in situ dans un cockpit. Alors en réalité, on est arrivé à une forme d'hybride où on se retrouve avec des appareils pilotés qui vont à leur tour, finalement, utiliser comme remorque, à munitions, à capteurs, à comment dirais-je, à brouilleurs, etc., etc., toute une série de drones. Mais cela pose la question du comment, d'un point de vue très technique cette fois-ci, avec certes des liaisons de données, mais qui dit liaison de données dit aussi émission, donc possibilité d'être repéré par un adversaire, dit également traitement informatique, dit également d'une certaine manière intelligence artificielle, parce qu'évidemment c'est pas le pilote de l'avion qui va en même temps télécommander le drone déporté, je veux dire comme on le ferait en modélisme et voilà et on piloterait en permanence, on télécommanderait en permanence le drone, c'est pas ainsi que ça va se produire. Donc ça pose des questions en termes d'ergonomie, en termes de comment dirais-je d'équipage, alors d'équipage in situ, mais également d'équipage artificiel entre guillemets avec des systèmes d'IA qui vont permettre de gérer tout cela. Ce qui pose en retour également la question de savoir jusqu'où doit aller cette intelligence artificielle. Alors évidemment, le fait de garder l'homme dans la boucle permet d'éviter évidemment le comment dirais-je l'obstacle et le problème posé par une désignation autonome de cible. Hein, donc il y a déjà une réponse, mais encore une fois, il faut parvenir à programmer les algorithmes qui sont là derrière. Et c'est là où on voit que finalement, derrière une question qui est très aéronautique, hein, d'avoir des choses qui volent en accompagnement d'autres appareils qui volent également, derrière l'aéronautique, finalement, on a un glissement qui est en train de s'opérer, alors déjà d'il diront certains depuis quand même pas mal d'années, mais vers quelque chose qui est beaucoup moins aéronautique et qui est beaucoup plus centré finalement sur le cyber, sur l'IA, sur les systèmes de systèmes, sur l'architecture système, sur finalement des choses qui sont assez éloignées de l'aéronautique et qui risquent peut-être de faire perdre une petite part du rêve que pouvait générer dans les yeux des enfants un avion qui décolle, quoi.
Enfin, pour revenir une seconde à ce qui se fait aujourd'hui et ce qui est en fait quand même assez proche de nous, il y a aussi tout un point, tout un article de Benjamin Gravis, donc qui est l'un des bons, voire très très bons spécialistes français de tout ce qui touche aux armements et au matériel russe, qui fait un point sur le dernier né, le dernier fleuron de l'industrie aéronautique russe, le Sukhoi 57. J'ai toujours une grande tendresse pour les Sukhoi, je trouve que ce sont des avions magnifiques, mais qui donc vient d'être livré, les premiers ont été livrés fin 2020. Alors est-ce que vous pourriez simplement nous dire rapidement ce qu'on en sait, puisque c'est évidemment le pendant, dans une certaine mesure, au F-35, et puis ce sera aussi le rival des futurs systèmes, par exemple, du SCAF. Qu'est-ce qu'on en sait de ce Sukhoi 57, et disons, en quoi est-ce qu'il nous révèle aussi peut-être des choses sur notre manière de faire, par comparaison ?
Alors, ce qu'on en sait, c'est que finalement, le premier appareil de série a été livré, donc le 25 décembre 2020. Donc petit à petit, effectivement, les Russes rattrapent leur retard, hein, vu que les sanctions qui leur ont été imposées suite à l'annexion de l'Ukraine a eu des impacts en fait sur la conduite de leur programme d'armement, dont la conduite du programme Sukhoi 57, du programme PAC-FA. Et où donc, les Russes petit à petit rattrapent ce retard. Malgré tout, il y a un certain nombre de problèmes qui continuent de se poser, ou en tout cas de défis qui restent à régler, en matière de motorisation notamment, vu que la motorisation définitive, on va dire, n'est pas encore là, en tout cas celle qui était initialement envisagée. Des problématiques également, ou en tout cas des défis au niveau de l'électronique, et là aussi des défis notamment en matière d'intégration, alors à la fois de nouveaux armements, vu que c'est un appareil en fait qui est d'abord destiné à faire de la chasse, hein, donc à faire de la supériorité aérienne, mais qui pourra être également impliqué dans des opérations beaucoup plus polyvalentes avec des capacités de frappe air sol, donc de nouveaux armements d'une part, et puis d'autre part également, bien là aussi des effecteurs déportés. Donc on voit bien que cette histoire d'effecteurs déportés, c'est pas uniquement une histoire américaine, australienne ou européenne, c'est aussi une norme qui est en train de s'installer, et y compris en Russie, avec un certain nombre d'informations qui ont percolé, on va dire. Alors il y a eu les images qu'on a vues du drone S-70 Okhotnik, qui est un drone assez lourd, hein, c'est un drone de combat, dont on se disait que finalement au départ c'était plutôt une espèce de démonstrateur, voilà, une espèce de banc d'essai de technologie. Et puis finalement les Russes l'ont fait voler, alors d'abord côte à côte avec un Sukhoi 57. Alors on va le faire voler côte à côte, on a fait ça aussi entre le Neuron et le Rafale, donc reste à voir quel est le degré d'intégration, mais il semblerait que les Russes veulent vraiment aller vers cette intégration avec au moins deux systèmes, donc d'une part un S-70 qui serait adapté, hein, donc qui évoluerait vers un système beaucoup plus mature, beaucoup plus opérationnel, mais aussi un système plus léger, le Molnia, qui pour le coup pourrait être embarqué dans les soutes donc du Sukhoi 57. Donc en fait là aussi les Russes sont au début finalement d'une aventure aéronautique sur laquelle finalement ils ont pas mal progressé. Ils se rendent bien compte là aussi que, comme un peu pour le F-16, hein, la famille Flanker, hein, donc la famille des Sukhoi 27, 30, 33, toute cette longue lignée finalement de Flanker, arrive quelque part un peu au terme de son développement. Elle a beaucoup évolué à travers les années. Donc il est temps de passer finalement à autre chose. C'est une machine d'ailleurs assez massive, donc qui dispose là aussi d'un potentiel d'évolution assez considérable. Et donc on va voir finalement tout ce que ça va pouvoir donner. Notamment, ce sont des choses qui sont évoquées pour le F-35 qui intégreront très certainement le SCAF ou le NGAD américain, mais notamment au niveau des capacités d'attaque électronique, l'utilisation des radars, finalement des radars AESA, pour faire autre chose que de la détection, mais pour faire aussi du brouillage, voire pour griller des systèmes adverses. Les Russes sont très portés sur ces questions de guerre électronique. Donc ça sera très très intéressant de voir comment eux vont s'approprier finalement les différentes fonctions des radars AESA. Donc ils sont pas, ce ne sont pas les derniers venus, hein, ce ne sont pas des lapins de 6 semaines en matière de radars AESA et de guerre électronique d'une manière plus générale. Mais ce sera très très intéressant de voir comment ils vont jouer avec ça, comment ils vont jouer également avec leurs futurs effecteurs déportés et les différentes munitions, nouvelles munitions qu'ils vont intégrer. Ils sont quand même en train d'en développer 14, hein, 14 types différents de systèmes de munitions qui équiperont alors le Sukhoi 57 et peut-être d'autres appareils ensuite. Donc là aussi, c'est un programme qui, à l'instar du SCAF chez nous, est extrêmement structurant finalement de l'avenir de leur aviation.
Très bien, et ben merci beaucoup Joseph pour ce tour d'horizon donc de ce hors-série numéro 78 de DSI, Défense et Sécurité Internationale, numéro de juin-juillet. Et on se reparlera sûrement une dernière fois avant l'interruption estivale qui arrivera mi-fin juillet pour le collimateur, ça permet de l'annoncer dès à présent. Et donc numéro 78 dès à présent en kiosque. Merci beaucoup Joseph.
Merci à vous.
Bonjour à tous, j'ai donc aujourd'hui le plaisir de recevoir Delphine Alès, professeure de sciences politiques, spécialiste de relations internationales, mais aussi de l'Indonésie, on va voir que c'est pas tout à fait anodin pour notre sujet d'aujourd'hui, directrice de la filière des relations internationales de l'INELCO, l'Institut des langues et des civilisations orientales, qu'on appelle encore parfois Langzo, même si c'est plus son nom depuis des décennies maintenant, auteur surtout d'un livre paru plus tôt cette année chez CNRS Éditions, La part des dieux. Religion et relations internationales. Donc bonjour et bienvenue dans le collimateur.
Bonjour Alexandre.
Alors, c'est un sujet qui est évidemment central pour parler de géopolitique et de conflits à l'échelle mondiale, ce qui est extrêmement bien traité dans cet ouvrage. Mais en préparant cette émission, je me suis fait la réflexion, comme c'est parfois le cas, qu'on pourrait peut-être se dire au premier abord que c'est quelque chose qui est un peu loin des bases du collimateur, au sens où il s'agit largement de théorie des relations internationales et des manières dont on fait entrer telle ou telle catégorie, en l'occurrence la religion, dans la bonne pratique de ces relations, disons. Mais du coup, il faut peut-être commencer par l'ancrer dans un certain nombre de lieux communs contemporains qu'on convoque assez facilement, en fait, pour expliquer les grands conflits d'aujourd'hui. Alors, c'est des grandes expressions qu'on utilise un peu lestement, disons, comme le retour du religieux, voire la revanche de Dieu, avec cette idée que la religion dominerait aujourd'hui beaucoup des guerres et des conflits, beaucoup plus qu'hier. Par exemple, en convoquant le terrorisme islamique, voire plus généralement un certain nombre de conflits interconfessionnels, je ne sais pas, par exemple en Birmanie il y a quelques mois, ou encore en République centrafricaine il y a quelques années. Et c'est quelque chose qu'on fait parfois, alors ça dépend des théories, mais qu'on fait parfois remonter aux années 70, voire à la révolution iranienne de 79, voire à la fin de la guerre froide, on aura l'occasion d'en reparler. Et dans ces visions les plus distillées et les plus inquiétantes, c'est notamment la théorie du choc des civilisations de Samuel Huntington, dont vous montrez bien d'ailleurs que au-delà des civilisations, c'est une reformulation d'une grille de lecture géopolitique, à vrai dire, assez largement religieuse. Alors, je vais commencer par vous poser la question de manière un peu simple, dans tous les sens du terme, pour entrer dans le thème et le développement beaucoup plus subtil du livre Delphine Alès. Est-ce qu'on a un retour du facteur religieux dans les conflits dans le monde? Et si oui, puisqu'il revient ou reviendrait ce facteur religieux, où est-ce qu'il était pendant tout ce temps?
Alors, merci de commencer par là la discussion. C'est effectivement un des pitchs du livre que d'expliquer que la religion n'est jamais partie des relations internationales, donc elle n'est pas revenue. En revanche, sa place a changé. Elle a gagné en visibilité. Et ce qui est nouveau depuis les années 90 et plus encore depuis les années 2000, c'est qu'on a tendance à l'utiliser de plus en plus comme une variable explicative, alors qu'avant, on avait tendance soit à négliger ce facteur en considérant qu'il était tout au plus instrumentalisé par les États au profit de logiques de puissance plus conventionnelles, ou alors tout simplement à ne pas le prendre en considération. Pourquoi ? Parce que les relations internationales sont une science sociale assez récente qui est l'héritière des grandes théories du 19e et du 20e siècle, selon lesquelles les dieux étaient, comme le disait Durkheim, voué à se replier sur l'Olympe et à ne plus se mêler des affaires du monde. Donc on a changé de paradigme depuis la fin du XXe siècle, en particulier depuis la fin de la guerre froide, parce qu'il a fallu trouver d'autres grands récits pour expliquer les humeurs du monde, et le religieux fait partie de ces facteurs explicatifs qui sont revenus sur le devant de la scène, vous le disiez, notamment à la faveur du succès des thèses du choc des civilisations.
Alors, il faut peut-être remonter aux origines, en quelque sorte. Enfin, on ne va pas faire un cours d'histoire des relations internationales à l'époque moderne, mais quand même aux origines de cette idée qu'il y aurait une séparation, en quelque sorte, entre le religieux et le politique et la politique internationale. Qui se situe dans un moment qui est un point de repère, plus généralement, dans l'histoire des relations internationales, à savoir un traité dont vous parlez beaucoup, dont on parle pas si souvent, donc c'est très bien que vous le remettiez sur le devant de la scène, qui est le traité de Westphalie de 1648. Alors, on peut dire que c'est, bon, globalement le marqueur qu'on prend pour situer le début du système international, avec l'idée que, donc, à cette occasion, en 1648, disons au milieu du XVIIe siècle, les dirigeants européens définissent un système de relations entre eux, de choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire entre États, et apparaîtrait à cette occasion l'idée que, notamment, bah, disparaîtrait la religion comme principe explicatif, puisque bon, il y aurait un consensus pour dire qu'on s'occupe pas tellement de la religion de son voisin, on déclare pas la guerre pour aller convertir le pays d'à côté, voilà, entre États, on traite entre États, et puis la religion, c'est à l'intérieur de l'État, ou c'est ailleurs, voire on peut aussi vouloir se raconter que c'est pas là du tout.
Oui, effectivement, tous les étudiants de relations internationales connaissent cette date, 1648, la signature des traités de Westphalie, qui fondent en quelque sorte ou qui consolident le système international contemporain, celui dans lequel on vit encore aujourd'hui, en posant ou en consolidant les principes de souveraineté interne et externe et en mettant fin aux décennies de guerre de religion en Europe occidentale. D'où cette idée, ce qu'on appelle couramment le mythe westphalien, selon lequel ces traités auraient d'une part sécularisé les relations internationales, auraient exclu la religion comme facteur de conflit entre les États, et l'idée sous-jacente que le retour du religieux serait donc nécessairement un facteur de retour des tensions et de retour des conflits. Alors la difficulté, c'est que d'une part les traités de Westphalie n'ont pas réellement exclut la religion en tant que facteur en relations internationales. Ils n'ont pas du jour au lendemain évacué cette dimension-là. Il suffit de regarder par exemple la place qu'ont joué les entreprises missionnaires en marge des entreprises coloniales. La deuxième difficulté, c'est que les traités de Westphalie ont concerné une petite partie de l'Europe occidentale, mais que le reste du monde a en fait suivi des trajectoires tout à fait différentes, dans lesquels l'enjeu de la relation entre État et religion était tout à fait différent. Pour les États d'Europe occidentale qui ont signé les traités de Westphalie, une des préoccupations était de s'émanciper vis-à-vis de logiques religieuses surplombantes, et en particulier de s'émanciper de la tutelle de Rome. C'est tout à fait différent, donc ils ont conquis leur autonomie en s'émancipant de cette façon-là. C'est tout à fait différent dans le reste du monde, et en particulier dans une grande partie du monde postcolonial, où l'émancipation est venue très couramment, et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris l'Indonésie comme prisme dans ce livre-là. L'émancipation est venue notamment de l'investissement d'acteurs religieux qui ont contribué à cimenter les identités nationales. Et donc, dans le reste du monde, je parle de l'Indonésie, mais ça vaut pour l'Égypte, ça vaut pour le Pakistan, ça vaut pour l'Inde, des organisations religieuses ont joué un rôle prépondérant dans l'accès à la souveraineté. Donc une trajectoire inverse de celle des États westphaliens.
Bon, par ailleurs, on peut souligner que c'est assez ironique, puisque si on a un peu quelques notions d'histoire d'Europe à l'époque moderne, l'idée que les traités de Westphalie auraient arrêté les conflits d'une manière générale, c'est vraiment à hurler de rire, mais même les conflits à connotation religieuse, C'est aussi tout à fait absurde, évidemment, que la fin du XVIIe et tout le XVIIIe siècle sont pleins de conflits à vocation, enfin à dimension religieuse, et que c'est pas parce que on considère au moins nominalement que on fait plus ou moins sortir ça des relations entre États que dans les faits, dans les disons conflictualités sous-jacentes, c'est pas quelque chose d'immensément important.
Non, en fait, ce qu'ont fait les traités de Westphalie pour les États européens concernés, encore une fois, ça ne s'applique pas nécessairement au reste du monde, c'est qu'ils ont enrégimenté le religieux, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement posé le principe selon lequel les princes étaient décideurs en dernier ressort de la conduite des affaires politiques sur leur territoire et de la conduite des relations internationales. Donc ils les ont aidés à s'émanciper d'un facteur ou d'une autorité religieuse surplombante, mais ça ne signifie pas effectivement que ce facteur ne continuait pas à être soit instrumentalisé, soit à peser tout simplement dans la détermination de leur politique intérieure ou extérieure.
S'il n'y a qu'à penser à l'expulsion des protestants de France, la révocation de l'édit de Nantes, etc. Enfin, bon, la liste est littéralement sans fin. Mais on peut dire qu'on commence déjà à voir poindre en quelque sorte une dimension normative à tout ça, c'est-à-dire l'idée que ce serait très bien d'avoir réussi à évacuer cette dimension religieuse de la grande politique internationale, disons, c'est-à-dire, bon, sous-entendu, plus ou moins l'irrationalité, quoi, d'avoir réussi à la chasser des relations entre États, et que, on entrerait avec ça un peu dans un univers où on discute entre gens raisonnables, entre hommes d'État, pas débarrassés des superstitions, puisqu'on est évidemment encore dans des mondes qui sont très religieux, mais en tout cas débarrassés de la tentation de ne pas s'entendre à cause de ça, quoi.
Oui, et là encore, c'est laisser de côté une bonne partie des motivations des responsables politiques. Vous parliez tout à l'heure des 18e ou 19e siècle, mais beaucoup plus près de nous, en plein cœur de la guerre froide, le moment où on s'imagine justement que les politiques internationales étaient prioritairement gouvernées par des logiques de puissance au service d'idéologies séculières, eh bien, les dirigeants, aussi bien états-uniens que soviétiques, mobilisaient des acteurs religieux dans la conduite de leur politique étrangère. Alors côté états-unien, c'était très clair avec l'idée de protéger notamment des minorités religieuses face à l'Union soviétique présentée comme l'Empire impie. Et ce qu'on oublie très souvent, c'est que même du côté soviétique, l'Église orthodoxe cooptée était mobilisée aussi pour participer à des conférences internationales et essayer de diffuser l'idée selon laquelle l'URSS était l'Empire de la paix. Donc même au cœur, encore une fois, de ce moment où la puissance est censée être le déterminant des relations internationales, il n'y a jamais eu d'exclusion totale du religieux des logiques en relations internationales.
Alors vous avez commencé à y faire référence, mais ce qui est intéressant avec cette référence, ce mythe westphalien, cette référence au traité de Westphalie, c'est qu'on voit bien que c'est un phénomène qui est largement européen, pour la simple et bonne raison que ça correspond à une histoire très européenne. Mais ce que vous montrez très bien dans le livre, c'est que si on regarde la chose un peu différemment, depuis d'autres points d'observation, on peut arriver à des conclusions relativement différentes sur le mix, disons, sur la perméabilité entre le religieux et le politique. Et notamment, c'est le cas avec votre aire de spécialité, qui est l'Indonésie. Vous avez commencé à y faire référence. Mais peut-être expliquez-nous ce qui est si intéressant dans le cas indonésien. Disons, dans cette qu'est-ce que ça montre, qu'est-ce que ça éclaire dans une certaine mesure de rapport entre politique et religieux qui pourrait être assez différent de ce qu'on s'imagine en Europe sans non plus imaginer que c'est une théocratie, puisque ça n'est pas ce que c'est pas l'autre absolu d'un régime politique qui est entièrement gouverné par le religieux, qui serait du coup irrationnel, etc. C'est simplement la religion qui a une place différente dans les relations inter- et intra-étatiques de l'Indonésie.
Oui, alors il y a beaucoup de parties dans votre question. Peut-être pour commencer par la question de la place du religieux dans le système politique indonésien. Hein, si on se tient aux principes constitutionnels, l'Indonésie a un modèle de constitution qui est assez unique, qui est une constitution qui est en fait monothéiste d'une certaine façon. On reconnaît l'existence d'un dieu unique sans pour autant préciser lequel. Et il y a en Indonésie six religions officielles dont aucune n'a officiellement, constitutionnellement, de place prépondérante. Tandis que l'Indonésie, dans le même temps, est un État très majoritairement musulman, du point de vue, en tout cas, voilà, des religions qui sont nominalement déclarées par ses citoyens. Donc là, ça pose le contexte. Ensuite, ce qui est intéressant pour cette étude, c'est de regarder l'évolution de la trajectoire de la relation entre religion et politique, et notamment politique internationale en Indonésie, et de regarder là, j'ai envie de dire, la débanalisation progressive de ce facteur. Je commençais à le dire tout à l'heure, dans le contexte de la marche vers l'indépendance de l'Indonésie, des organisations à dimension religieuse aux côtés d'organisations séculières ou pour lesquelles cette question n'existait tout simplement pas, ont joué un rôle assez important, et donc elles ont légitimement, de leur point de vue, revendiqué une place au moment de l'indépendance dans l'élaboration du système politique indonésien. Elles l'ont revendiqué comme le faisaient d'autres organisations de façon tout à fait banale. Et puis progressivement, ces organisations, les partis politiques qui en étaient issus, ont été marginalisés parce que l'intégration de l'Indonésie au sein du système international global, avec la perception séculière que l'on en a, passait notamment par la marginalisation de ce facteur. Et donc,
C'est-à-dire pour qu'ils soient considérés comme des grands, il ne fallait pas trop montrer la religion, quoi.
Du point de vue des dirigeants, qui ont par ailleurs fait un usage stratégique aussi de cette représentation. C'est-à-dire que ça permettait aussi aux pères de l'indépendance indonésienne d'exclure une partie des partis politiques qui leur faisaient concurrence du centre du système politique. Et donc progressivement, les partis à dimension religieuse ont été repoussés au marge du système politique et ont développé une rhétorique qui était de plus en plus contestataire. Donc c'est un premier point qui est assez intéressant sur la trajectoire de ces organisations. Et du point de vue, alors maintenant, de la politique internationale de l'Indonésie, là aussi, on a une évolution qui est assez intéressante au cours des 20-30 dernières années, où pendant très longtemps, justement en vertu de cette constitution qui ne reconnaît pas de place particulière à une religion par rapport aux autres, et en particulier à l'islam par rapport aux autres religions présentes dans l'archipel, la politique étrangère de l'Indonésie n'a pas fait de référence explicite à une quelconque identité, et en particulier à une identité musulmane. Et puis progressivement, les choses ont évolué, mais elles ont évolué d'abord de l'extérieur, en raison des perceptions que les partenaires internationaux de l'Indonésie avaient de cet État, ce qui a progressivement contraint les dirigeants indonésiens, en fait, à se saisir de ce facteur et à en faire aujourd'hui un des éléments importants de leur discours de politique étrangère. Ça s'est fait alors progressivement à partir des années 90, c'est-à-dire au moment où, comme on le disait tout à l'heure, le facteur religieux acquiert une plus grande visibilité dans les relations internationales. Mais le véritable tournant, ça a été le moment où, quelques jours après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, il se trouve que la présidente indonésienne de l'époque, Megawati Sukarnoputri, a été la première chef d'État d'un pays majoritairement musulman à se rendre, la visite était prévue de longue date, en visite à Washington. Et donc, soudainement, l'Indonésie, qui jusque-là était présentée comme le plus grand pays démographiquement d'Asie du Sud-Est, était présentée comme un État en phase d'émergence sur le plan économique, etc., soudainement, elle devient le plus grand pays musulman du monde. Elle est présentée comme ça de façon systématique, parce que ça correspondait voilà, au prisme qui s'est imposé à ce moment-là. Ça correspondait aussi, bien sûr, aux intérêts des dirigeants américains que de se présenter main dans la main avec la présidente d'un grand État musulman. Et donc il a bien fallu, pour les dirigeants indonésiens, réagir à l'image qui était projetée et donc se saisir de cette perception. Et c'est à partir de ce moment-là que, officiellement, dans le discours de politique étrangère de l'Indonésie, l'Indonésie commence à être présentée comme le plus grand pays musulman du monde, tout en étant une démocratie qui prône la modération.
Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on commence à pointer le problème qui se cache derrière, c'est de mettre un label dessus, de mettre le label musulman. Enfin, on se doute bien, on voit bien, enfin, ne serait-ce que dans le mix, que la pratique de la religion musulmane en Indonésie est probablement pas exactement la même, notamment dans son interaction avec la politique en Iran, ni qu'aux Émirats. Donc mettre un grand label, monde musulman, pays musulman, c'est problématique, même parfois on essaye de financer en disant chiite, sunnite, mais ça, en fait ça résout pas tellement le problème parce qu'il y a de la diversité énorme dans tous ces camps. Donc en quelque sorte, c'est, on voit qu'il y a de la religion, on peut accepter qu'il y a de la religion qui doit intervenir dans les relations internationales, mais il faut bien la simplifier, quoi. Faut que ce soit, faut que ça rentre dans des grandes cases, sinon il y a une sorte de gêne qui apparaît sur, disons, dans la pratique diplomatique et dans la pratique des relations internationales.
Oui, c'est toute la difficulté, effectivement, quand on mobilise un prisme d'analyse au niveau global, et en particulier pour une religion comme l'islam qui n'a pas d'autorité centralisée. C'est plus simple pour le catholicisme. On peut dire, voilà, c'est le catholicisme romain, et donc il y a une forme d'unité. En islam, effectivement, à l'intérieur même de l'archipel indonésien, il y a des centaines de pratiques tout à fait différentes. Ce que je reprends beaucoup dans l'ouvrage, c'est la grille de lecture qui a été élaborée par une chercheure américaine, Elizabeth Shackman-Hur, qui explique qu'il y a une différence entre la religion savante telle qu'elle est présentée par les autorités universitaires académiques, la religion gouvernée, celle que précisément ces grands labels mobilisent pour mettre en place des politiques publiques ou pour aborder des enjeux notamment de relations internationales, et puis les religions vécues, c'est-à-dire les pratiques quotidiennes des acteurs qui sont extrêmement diversifiées. On ne pratique pas le même islam à Java que dans certaines régions de Sumatra et que encore moins au Maroc ou en Tunisie. Néanmoins, la vraie difficulté avec ces labels, quand ils débouchent sur des politiques publiques, et notamment des politiques publiques internationales mises en place par des organisations internationales ou des ONG, c'est qu'ils ont une tendance à uniformiser les représentations et la façon dont les individus, dont les acteurs vont se représenter leur propre identité. Et donc ils ont un effet performatif puisqu'ils provoquent cette uniformisation, et donc ils vont avoir tendance à progressivement conformer les représentations, les identités et la façon dont les pratiques se mettent en place.
Oui, mais c'est intéressant. Ce que nous montre l'exemple de l'Indonésie et plus généralement de ces pays où disons, il n'y a pas la même conception de frontière entre politique et religieux, c'est que à partir du moment où on vit dans un monde globalisé et où donc il faut bien fréquenter ces pays, il faut bien avoir des relations avec ces pays, ça nous force à nous interroger sur nos propres modes de réflexion des relations internationales, sur propre mythe de Westphalien, cette idée qu'on pourrait ranger la religion bien sagement dans un coin et discuter entre gens raisonnables dans les sommets de chefs d'État, quoi.
Ça nous oblige effectivement à décentrer le regard et à essayer de comprendre ce que des trajectoires historiques différentes, en l'occurrence en termes de relations entre religion et autorité politique, font au système international. Et ça permet de mettre en lumière le décalage qui existe entre les institutions telles qu'elles ont été constituées, en l'occurrence sur cette question du religieux, c'était un enjeu qui n'était pas pris en considération par le système international, et ça entraînait un décalage effectivement avec les pratiques dans le reste du monde, et c'est précisément dans ce décalage et dans les interstices qu'il crée que vont se nicher des contestations du système international. Donc le décentrement, il permet aussi d'éclairer en faisant un pas de côté certaines des contestations et certaines des difficultés des institutions, notamment internationales, à s'adapter aux situations sur le terrain.
Bah oui, parce qu'on peut en dire un mot, mais du coup, l'idée qu'il y a un système international qui imposerait ce mythe laïque, même si bon, c'est un mot compliqué à convoquer dans ce contexte-là, mais cette idée qu'on séparerait la religion et la bonne politique, ça aussi, ça place en quelque sorte tous ceux qui pourraient être amenés à contester ce système international-là, pas seulement dans cette dimension-là, mais dans sa bipartition entre fort et faible, ça place tous ceux qui contestent ça à se mettre plus ou moins du côté du religieux, en tout cas d'une contestation qui peut être facilement rangée dans une contestation religieuse, voire fondamentaliste, voire obscurantiste, etc. Il y a aussi ce sorte de regard un peu, enfin ça va aussi avec un regard pas méprisant mais un petit peu condescendant aussi pour tous ces pays qui contesteraient le système international avec un point de vue ancré dans la religion, qu'on a tout fait de ranger dans une catégorie de religieux, religieux, avec plein de guillemets, mais c'est la tentation quand même.
Disons que ça fait passer les mobilisations à dimension religieuse d'un point de vue qui peut être celui de la négociation ou de la revendication à celui de la contestation et de la remise en question du système dans son ensemble. Alors ceci dit, le système international s'adapte beaucoup, il s'adapte peut-être, c'est un des arguments que je développe dans le livre, peut-être un peu trop. D'une certaine manière, puisque on a basculé d'un contexte jusqu'aux années 90 où ce facteur était évacué de l'analyse ou était considéré comme tellement secondaire qu'il ne nécessitait pas qu'on s'y attarde, à un contexte dans lequel on a tendance, et beaucoup d'organisations internationales ou d'ONG ont tendance à accorder aux facteurs religieux une place qui est devenue démesurée. On a un peu basculé dans l'excès inverse. Et là où c'est assez intéressant et paradoxal en même temps, c'est que cette logique est notamment alimentée par les critiques de l'idée du choc des civilisations. C'est-à-dire qu'à force de contester l'idée du choc des civilisations et de mettre en place des dispositifs qui sont destinés à en prévenir les effets, on le réifie d'une certaine manière, puisqu'on va considérer que, effectivement, la différence de religion nécessite d'être prise en charge par le politique, nécessite d'être gouvernée, et de donner lieu à des dispositifs en termes de politique publique. C'est pour ça qu'on voit, depuis une vingtaine d'années, se multiplier les forums de dialogue interreligieux, les organisations du type Alliance des Nations Unies pour les civilisations, l'UNAOC, du type politique de sortie de conflit ou dispositifs de sortie de conflit qui prennent en considération et qui accordent une place bien spécifique aux acteurs religieux. Donc on attend à voir sous un prisme ou sous le prisme de la différence de religion des situations, et notamment des situations de conflit qui sont extrêmement complexes, dans laquelle peut-être que cette variable joue un rôle et peut-être joue un effet d'entraînement, mais n'est jamais la seule variable, mais on a tendance à survaloriser ce prisme-là.
On voit que c'est compliqué, que c'est multiple variable, mais malgré tout, j'aimerais qu'on sacrifie un peu aux idées reçues que j'exposais rapidement en préambule pour juste clarifier un peu les idées là-dessus. Alors, on a évidemment bien compris que vous ne pensiez pas particulièrement que la religion avait disparu des relations internationales avant les dernières décennies, mais on a quand même cette idée qu'on aurait une sorte de résurgence avec la fin de la guerre froide, c'est-à-dire qu'on aurait perdu avec la fin de la guerre froide un affrontement entre deux régimes politiques antagonistes, bon, modèle capitaliste américain et socialisme d'État soviétique. Appelons ça comme ça, même si c'est très approximatif, et si, même si d'ailleurs on pourrait discuter de savoir si ça ne serait pas des religions aussi, d'une certaine manière, à un moment. Mais c'est l'idée qu'on aurait, du coup, une fois que ça s'est disparu, cet affrontement idéologique, un vecteur de conflictualité nouveau qui serait le phénomène religieux. Alors je soupçonne qu'on parle généralement de l'islamisme et de l'islam politique quand on dit ça, qui aurait pris de plus en plus de place devant ce vide. Alors est-ce que, c'est difficile parce qu'on peut pas faire des catégories, c'est compliqué de faire des chiffres, mais est-ce qu'on sait s'il y a, au moins dans les discours ça paraît assez évident, mais est-ce qu'on est capable de qualifier un certain nombre de conflits avec des motivations plus ou moins religieuses? Est-ce qu'on est capable de voir si on aurait, disons, une augmentation des conflits de nature confessionnelle, disons, depuis la fin de la guerre froide?
Alors, on a du mal effectivement à mesurer la place que prend le facteur religieux dans les conflits. Ce qu'on sait en revanche, c'est que les conflits qui impliquent des membres de communautés religieuses ont tendance à être plus violents. Donc il y a bien un effet de la dimension religieuse sur l'intensité des conflits, ce qui s'explique notamment par le fait que le religieux est un phénomène qui est difficilement négociable, contrairement aux négociations sur des enjeux de nature économique ou territoriale. Donc ce sont des conflits qui ont tendance à être plus violents et à se prolonger dans le temps. Il y a un certain nombre de travaux, notamment ceux de Jonathan Fox, sur le poids de la religion dans les conflits. Là où il y a un consensus scientifique, c'est sur le fait que la différence de religion ne suffit jamais à déclencher un conflit. C'est pas un facteur de déclenchement. Il y a toujours d'autres phénomènes. En revanche, effectivement, ça les aggrave et ça les prolonge et ça les rend difficilement négociables.
Et alors, dans la continuité de ça, est-ce qu'on peut faire un point, un sort, j'espère même, à cette idée de choc des civilisations, donc développée par Samuel Huntington, qui est devenu un système au fil des années 90, qui n'était pas forcément nécessairement au début, mais est-ce qu'on peut peut-être résumer à très gros traits ce qu'il essaye d'en dire, mais surtout voir comment c'est une idée qui a 30 ans maintenant, comment elle a passé le cap de la trentaine en quelque sorte.
Oui, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une idée qui a été très contestée d'emblée. Huntington, d'ailleurs, lui-même, dans son premier article sur le sujet, posait une hypothèse avec un point d'interrogation. Il a abandonné le point d'interrogation quand l'article est devenu un ouvrage quelques temps après. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les acteurs se sont progressivement appropriés cette idée de choc des civilisations, basée sur des grands ensembles, 8 grands ensembles civilisationnels, qui ne sont pas très bien définis d'ailleurs dans l'ouvrage d'Huntington. La seule chose qu'il en dit, c'est qu'effectivement, la dimension religieuse est la plus structurante dans la définition de ces civilisations, mais toutes ne sont pas définies sur une base religieuse, donc tout ça est assez fluide. Mais les acteurs se sont progressivement appropriés cette grille de lecture, y compris, comme je disais tout à l'heure, quand ils la critiquent ou quand ils mettent en place des dispositifs qui sont supposés aller à l'encontre des effets du choc des civilisations. Pour l'anecdote, dans les télégrammes diplomatiques publiés par Wikileaks de l'ambassade des États-Unis à Jakarta dans les années 1990, on en retrouve un quelques mois après la sortie du premier article sur le choc des civilisations, dans lequel les diplomates américains expliquent qu'il s'inquiète de voir que cette thèse se répand comme une traînée de poudre en Asie. Et s'inquiète de voir qu'elle remplace, parce qu'elle est très, 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 très pratique, prête à l'emploi, et qu'elle remplace progressivement les lectures des relations internationales en termes de puissance. Et donc ils font une suggestion à Washington en disant qu'il faut absolument contrer cette thèse pour ne pas que le Huntingtonisme, c'est le terme qui est employé, devienne performatif et donc se traduise par une réalisation.
Mais alors disons-en un mot de ça, de cette performativité à laquelle vous avez déjà fait référence. Donc la performativité, on va rappeler, ça vient de théorie du langage, mais c'est l'idée que qu'il y aurait certaines paroles, certains discours qui feraient advenir les choses. C'est la théorie d'Austin.
C'est la prophétie autoréalisatrice, voilà, pour le dire peut-être plus simplement.
Voilà, et que donc, rapporté à ce contexte-là, c'est l'idée que si on professe qu'un choc des civilisations va venir, peut-être que ça va se mettre un peu à traîner dans l'esprit de tout le monde et que ça peut faire rapprocher tous les acteurs de ce genre d'horizon. C'est-à-dire, si on glisse cette idée-là en tête des gens, peut-être qu'on s'en rapproche.
Oui, parce que progressivement, les acteurs finissent par intégrer cette représentation. Si on vous aborde et qu'on vous applique des dispositifs de politique publique en vous expliquant que vous êtes intégré dans un dispositif parce que vous avez telle ou telle identité religieuse, c'est progressivement cette identité-là qui va prendre le pas sur toutes vos autres identités, parce qu'on est chacun composé d'une multiplicité d'appartenances qu'on a tendance à mobiliser stratégiquement en fonction de nos intérêts et en fonction des contextes. Mais peut-être pour revenir sur les raisons pour lesquelles le choc des civilisations a eu autant de succès, outre évidemment l'explosion en vol des thèses qui prédominaient pendant la guerre froide, c'est parce que c'était un prisme qui permettait de répondre à un certain nombre de difficultés ou de problèmes d'analyse dans les années 90. On critiquait beaucoup le prisme en termes de puissance parce que il n'était pas adaptable, il n'était pas flexible en fonction des contextes. Or, la thèse du choc des civilisations semblait répondre à cette difficulté, puisqu'elle distinguait des régions du monde et il semblait que elle permettait d'adapter en quelque sorte l'analyse. L'autre raison...
Puis en même temps, elle avait aussi l'avantage d'être toute fraîche, et que parce qu'elle était toute fraîche, elle était plus difficilement contestable que des théories peut-être plus anciennes d'affrontements idéologiques à l'échelle planétaire, quoi.
Oui, et puis elle faisait revenir une variable sociale et culturelle qui avait été négligée pendant la guerre froide. Et surtout, elle permettait de déboucher immédiatement sur des solutions qui étaient à la fois relativement faciles à identifier et facile à transposer d'un terrain à un autre. Si la cause des conflits est la différence de civilisation ou la différence de religion, alors la solution est assez simple. Il faut faire du dialogue intercivilisationnel ou du dialogue interreligieux pour résoudre ces conflits. Et Tony Blair avait une phrase, l'ancien Premier ministre britannique, qui concentre assez bien cette idée-là. Il explique qu'il y a, alors c'est un jeu de mots en anglais, « two faces of faith », deux visages de la religion, c'est à la fois le problème et sa propre solution. Donc par le dialogue interreligieux, on peut résoudre, ou par l'apaisement via des leaders religieux, on peut résoudre les conflits de religion. Et ça concentre assez bien à la fois la thèse du choc des civilisations et les dispositifs ou les solutions qui sont proposées pour essayer de prévenir les conséquences supposées de cette approche.
Mais c'est intéressant parce qu'on voit, c'est toujours ce que vous expliquez au sujet de, avec le contre-exemple indonésien, c'est-à-dire ce sont des choses qui gomment la complexité, la subtilité dans le fait que ben il y a un peu de religion partout et en même temps, on peut aussi le mettre de côté assez facilement dans la plupart des situations. Là, cette idée-là, cette idée que la religion serait un des grands principes explicatifs, pousse évidemment à traiter la religion à la fois comme la solution autant que comme le problème. Et du coup, au final, on finit par toujours faire grossir cet élément-là du problème sans jamais être capable de doser la chose en considérant que la religion, c'est de la politique. Ça n'est pas que de la politique, mais ça fait partie de la politique. Et il faut lui trouver une place fluctuante en fonction du contexte et pas une place absolue, quoi.
Voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie du quotidien des acteurs, c'est une de leurs références, une dimension de leur identité, mais c'est pas nécessairement un paramètre explicatif systématique. Moi, ce qui me frappe beaucoup en observant des cas de conflits bien particuliers, et en particulier sur ce terrain indonésien, c'est que plus les situations conflictuelles sont complexes, et plus on en est éloigné, plus on a tendance à utiliser le facteur religieux comme prisme d'analyse. Parce que c'est le plus facilement identifiable et transposable du point de vue des acteurs qui sont éloignés du terrain. Et plus on va se rapprocher du terrain, plus on va rencontrer des acteurs qui expliquent que non, en fait, il y a des tensions intercommunautaires qui n'ont pas nécessairement de rapport direct avec le religieux, qu'il y a des tensions territoriales, qu'il y a des questions de redistribution des ressources, par exemple, naturelles, etc. Et donc il y a toujours des paramètres qui sont interreliés. Mais voilà, plus on a tendance à être éloigné du terrain, plus on va mettre l'accent sur la dimension religieuse. Et c'est assez frappant quand on regarde les manuels de bonnes pratiques qui sont publiés par les organisations internationales en matière de développement ou de résolution de conflits, ou les ONG dans les mêmes domaines. On voit maintenant fleurir des manuels sur comment interagir avec les acteurs religieux dans la détermination des programmes et dans leur mise en œuvre. On voit pas ça pour d'autres type d'acteurs. Mais il y a là des guides directs avec l'idée à la fois que les religions sont présentes partout, donc ça permet d'avoir ou d'imaginer des dispositifs politiques depuis New York, Paris ou Genève qui sont transposables d'un terrain à l'autre, tout en s'adaptant aux spécificités de chaque terrain. Parce qu'effectivement, les organisations religieuses quadrillent les territoires, donc ça donne un accès peut-être plus simple ou plus direct aux populations.
Mais c'est intéressant, parce que ça implique vraiment de plonger, comme vous le disiez, et d'aller au-delà des discours, parce que même quand il y a des militaires qui viennent ici raconter des histoires, c'est parfois on peut voir le spectre de tel ou tel responsable religieux avec qui il faut négocier une telle ou telle situation. Puis en fait, quand on discute au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est un responsable religieux qui est désigné comme religieux parce que la religion est importante. Et c'est surtout un chef de village, c'est surtout un cadre social au sens et culturel au sens beaucoup plus large, et que la religion est, souvent fait un peu écran aussi au vrai rapport de, enfin pas au vrai rapport parce que c'est une dimension des rapports de pouvoir, mais en tout cas, la vraie géométrie des pouvoirs à l'intérieur d'un territoire ou entre des gens ou des communautés, quoi.
Oui, tout à fait. Ce sont des acteurs qui sont insérés dans les communautés, qui ont eux aussi des identités multiples, mais dans un contexte où le religieux prend une place de plus en plus importante dans l'analyse, on a tendance à mettre l'accent exclusivement sur cette dimension de leur identité. Et c'est là qu'on retrouve la performativité dont je parlais tout à l'heure, puisque, encore une fois, je cite toujours un exemple assez frappant d'une des enquêtées que j'ai beaucoup avec qui j'ai beaucoup interagi sur le terrain indonésien, qui est pour le coup plein d'identités, une institutrice javanaise, femme, investie dans plein d'organisations de la société civile, mais elle m'expliquait elle-même stratégiser d'une certaine façon son identité de femme musulmane parce que ça lui donnait accès à des sphères auxquelles elle n'aurait pas eu accès si elle s'était présentée en tant qu'institutrice javanaise. Là, elle se présentait comme quelqu'un qui avait une autorité dans une communauté religieuse parce qu'elle était investie parmi mille autres organisations dans une organisation féminine liée à un des grands partis musulmans indonésiens. Et donc c'est cette partie-là, cette dimension-là de son identité qui était mise en avant parce que c'est elle qui lui permettait de capter tout simplement des ressources redistribuées par des ONG ou des organisations internationales.
Ouais, mais c'est pas nouveau, mais c'est, voilà, la religion, c'est une stratégie aussi. Enfin, il y a dans les statuts religieux, il y a une dimension stratégique évidente. On peut s'en réclamer ou ne pas s'en réclamer pour obtenir des trucs, quoi. Enfin, c'est presque trivial. Ça a l'air presque provocateur de le dire comme ça, mais en fait, c'est tout à fait trivial, quoi. C'est à partir du moment où la religion est partout, c'est une ressource comme une autre, quoi.
Absolument. Oui, c'est pour ça que je plaide pour le fait de banaliser ce facteur, c'est-à-dire de à la fois lui accorder l'importance qu'il mérite et qu'il a toujours eue, ne pas le nier comme on l'a fait pendant très longtemps en analyse ou en sociologie des relations internationales, et en même temps pas lui donner une place démesurée de variables explicatives systématiques.
Alors là où c'est intéressant, et on peut peut-être prendre un peu le contre-pied, c'est qu'on ne peut pas le nier pour autant, notamment dans les relations internationales, notamment à l'échelle régionale voire planétaire, c'est-à-dire voilà, il y a des solidarités religieuses à l'échelle régionale, par exemple au Moyen-Orient, entre puissances chiites, le soutien de l'Iran, par exemple, le régime de Bachar al-Assad n'est pas totalement dépourvu probablement d'une dimension religieuse. De la même manière, même si c'est au niveau mondial, même si c'est pas au même niveau, il y a aussi des organisations de coopération confessionnelle, il y a une organisation de coopération islamique. Enfin, ça existe, quoi, c'est pas un non-facteur, ça n'est pas qu'un cache-misère ou qu'un écran de relations de pouvoir entièrement sécularisé. C'est un vrai truc, mais faut peut-être pas se crisper dessus, quoi.
C'est un vrai truc, ça existe absolument. Bien sûr que c'est un facteur de solidarité transnationale. Mais d'un autre côté, les exemples que vous donnez montrent bien que c'est un facteur qui ne suffit pas. Si on prend la question des solidarités supposément religieuses au Moyen-Orient et qu'on regarde dans le détail quelles sont les alliances, les coopérations et puis les tensions politiques, on se rend bien compte du fait qu'il n'y a pas de cohérence absolue autour de la variable religieuse. Comment expliquer les tensions entre l'Arabie Saoudite et le Qatar si on se contente du facteur religieux? Comment expliquer le rapprochement entre Israël et les Émirats si on se contente d'analyser les choses au prisme de la solidarité religieuse? L'organisation de la coopération islamique que vous citez, qui s'appelait avant Organisation de la Conférence islamique, c'est extrêmement intéressant parce que c'est une organisation, c'est effectivement la seule organisation internationale qui est fondée sur un critère d'appartenance religieuse, qui est d'ailleurs assez fluide parce qu'une partie des membres de cette organisation n'ont pas une majorité de population musulmane, mais simplement une grosse minorité, c'est le cas du Suriname par exemple, mais c'est une organisation intergouvernementale qui traite de problématiques tout sauf religieuses et théologiques, tout simplement parce que ses membres seraient absolument incapables de se mettre d'accord sur un référentiel théologique commun, puisqu'il y a dedans des États qui sont majoritairement, officiellement ou pas d'ailleurs, chiites, sunnites, ibadites et d'autres obédiences minoritaires. Donc il n'y a surtout pas de discussion théologique. Il y a en revanche la tentative de à la fois recapter au sein de cette organisation par des dirigeants qui se présentent comme des dirigeants politiques conventionnels, un facteur religieux qui commençait à leur échapper au moment de la formation de l'organisation à la fin des années 60. Donc ils étaient contestés par des mouvements islamistes transnationaux et contestataires. Et donc les dirigeants des États fondateurs de l'organisation de la conférence islamique ont monter une organisation internationale pour essayer de recapter au sein d'une organisation multilatérale tout à fait conventionnelle, qui fonctionne selon un registre interétatique, qui respecte la souveraineté des États membres, etc., ce facteur religieux.
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est il y a ce truc, enfin c'est peut-être une spécificité, je sais pas, de la religion, mais de différenciation, quoi. D'ailleurs, votre ouvrage se conclut là-dessus, sur l'idée que donc on essaye de mobiliser la religion comme catégorie dans les relations internationales, que ce soit pour le meilleur, pour le pire, on essaye de réussir à manipuler ce truc-là dans la pratique qu'on a aujourd'hui de la grande diplomatie mondiale, des relations internationales, etc. Mais il y a un truc dans la religion, c'est qu'en fait, dès qu'on essaye de capter, de saisir un groupe religieux, en fait, ça marche pas. Il y a toujours une tentation de se différencier, pas de sécessionner, mais si, en tout cas de se trouver. C'est-à-dire, si on considère, je sais pas, un groupe islamique, ou même un groupe, un ensemble d'islamiques chiites, ou même un ensemble islamique chiite duodécimain, en fait, à partir du moment où les relations internationales, la grande diplomatie mondiale arrivent avec ces gros concepts, en fait, les acteurs, concrètement, sur le terrain, ça leur plaît plus. Et il y a toujours une tentation de dire « Ah, non, mais non, c'est pas la grande catégorie de l'ordre mondial, c'est nous, on est un peu différents. »
Oui, bah parce que l'une des caractéristiques de la religion repose justement sur le mystère, hein, et puis sur l'appartenance qui ne peut être qu'individuelle, ou la croyance, le rapport avec le divin qui ne peut être qu'individuel. Et donc à ce titre-là, la religion, c'est aussi un vecteur d'autonomie pour les acteurs. C'est pas possible de capter pleinement une religion, et moins elle est institutionnalisée, moins c'est le cas, dans un dispositif politique. Donc les acteurs qui se revendiquent en tant qu'acteurs religieux auront d'une certaine façon toujours un temps d'avance sur l'État ou l'organisation internationale, intergouvernementale, qui essaiera de capter le religieux au profit d'une logique de gouvernance ou d'enrégimentement de nature politique. Parce qu'il y aura toujours effectivement un acteur ou un groupe qui pourra dire non. En fait, nous, on a une approche qui est plus conforme à l'authenticité religieuse, tout simplement parce que quand on fait de la politique, on doit faire des choix. Et ces choix traduisent nécessairement une interprétation, même quand ils se présentent comme des choix faits en vertu du religieux. Olivier Roy le montre très bien. Ces choix sont à un moment donné nécessairement des choix séculiers. Et conduisent nécessairement à faire des compromis avec les logiques d'absolu. Donc l'acteur qui se revendique de cet absolu et qui n'a pas encore mis ses mains dans la pratique politique quotidienne aura toujours un temps d'avance dans la contestation sur celui qui essaye de le réenrégimenter.
Oui, mais alors de ce point de vue-là, on peut peut-être dire un mot pour terminer de l'Iran et de ce que ça a été. Non, mais de ce que ça a représenté la révolution iranienne de 1979, et ce que ça représente aussi un peu dans les relations internationales aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée d'une théocratie, l'idée d'une révolution religieuse qui est vouée à se répandre un peu partout, parce que, ça explique aussi dans une certaine mesure la place de l'Iran dans les relations internationales, mais c'est un repoussoir assez fort, c'est l'idée que c'est des gens, encore une fois, c'est là cette dimension normative dont on parlait un peu tout à l'heure, c'est l'idée que c'est une théocratie, on peut pas discuter avec ces gens-là, parce qu'ils sont religieux, uniquement religieux, alors que, si on regarde un peu plus près, en fait, font de la diplomatie pas si baroque que ça, quand même. Ça rentre dans des catégories qu'on est quand même assez habitué à voir, disons des logiques de puissance assez traditionnelles, quand même.
Oui, et puis l'Iran, alors d'accord, il y a une dimension théocratique, mais il y a aussi une dimension civile. C'est un État qui repose sur une double légitimité, divine effectivement, mais aussi élective. Et on voit bien à la façon dont le régime iranien contrôle sa population qu'il ne lui suffit pas de s'appuyer sur cette légitimité divine pour voir sa légitimité effectivement reconnue par la population iranienne par le reste du monde musulman et même chiite. Donc il y a une volonté de contrôle très forte qui montre bien que ça ne suffit pas et que le régime lui-même et que la façon même dont le régime traduit en politique des principes qu'il présente comme étant des principes religieux suscite de la contestation et qu'il faut arriver ensuite à contrôler cette contestation. D'où effectivement une politique étrangère contestataire qui se rapproche d'autres contestations beaucoup plus classiques sans qu'il y ait nécessairement une dimension religieuse.
Très bien, merci beaucoup Delphine Alès.
Merci.
Alors je rappelle donc cet ouvrage, La part des dieux, religion et relations internationales, paru donc plus tôt cette année chez CNRS Éditions. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vos notes, retours, commentaires, suggestions sont toujours autant les bienvenus, que ce soit sur SoundCloud, sur Apple Podcast ou plus directement sur les réseaux de l'IRSEM ou à l'adresse mail collimateur@irsem.fr. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.